VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Chez Robin Dorsil et Idrissa Sedoudia, bonsoir à tous. Bienvenue à l'édition de ce jeudi 25 juin 2015. À la une ce soir.
Crise au Burundi, le deuxième vice-président s'enfuit du pays et trouve refuge en Belgique.
Des centaines d'étudiants cherchent refuge à l'ambassade américaine à Bujumbura.
Une quinzaine de combattants de Boko Haram tués au Niger.
La lutte contre les islamistes nigérians sera au cœur des pourparlers entre les présidents Buhari et Obama le mois prochain à Washington.
Nucléaire iranien, les négociations entre Téhéran et le groupe P5+1 pourraient ne pas aboutir en accord à la date prévue. Avertis aux responsables américains.
Après de sérieux revers, les djihadistes du groupe État islamique repartent à l'offensive dans le nord de la Syrie.
Et ici aux États-Unis, la Cour suprême confirme une clause importante de la loi sur l'assurance santé appelée Obamacare, une victoire pour le président américain.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais on commence par le journal.
Au Burundi, le personnel de l'ambassade des États-Unis était confiné ce jeudi après-midi dans la capitale Bujumbura. Des Marines étaient positionnés sur le toit après l'intrusion de quelques 200 étudiants venus y chercher refuge. Un développement qui intervient peu après que le deuxième vice-président burundais, membre éminent du parti au pouvoir, a fui le pays et a trouvé refuge en Belgique. Gervais Wifikiri a appelé le président Pierre Nkurunziza à renoncer à un troisième mandat. Un survol de ces derniers développements avec Jacques Aristide.
Le deuxième vice-président, Rufi Ikiri, a adressé une lettre très sévère au président Pierre Nkurunziza, affirmant que sa candidature à un troisième mandat va conduire le pays à une véritable crise sociopolitique. Vous avez décidé de foncer et d'engager le peuple burundais sur la voie de l'illégalité, écrit-il dans cette missive que cite l'AFP. Et d'ajouter que les conséquences sont déjà visibles, avec à des dizaines de milliers de Burundais réfugiés dans les pays voisins, des manifestations réprimées de façon surdimensionnée, dit-il, et un isolement international croissant d'un pays au bord de l'effondrement économique. La défection de Gervais Rufyikiri, ce professeur d'université considéré comme l'un des grands intellectuels du régime au pouvoir, intervient à 4 jours d'élections législatives, scrutin que l'opposition n'exclut pas de boycotter et dont la communauté internationale demande le report compte tenu de la grave crise que traverse le Burundi. Une crise également traduite ce jeudi par des étudiants qui se sont réfugiés dans l'enceinte de l'ambassade américaine à Bujumbura. Ils campaient depuis fin avril devant l'ambassade, dont ils demandaient la protection après avoir été chassés de leur campus au début des manifestations contre le président Nkurunziza. Les 200 étudiants ont pénétré dans le complexe après avoir été sommés par la police ce matin de quitter les lieux.
Au Niger, l'armée affirme avoir tué une quinzaine de miliciens de Boko Haram au cours d'opérations terrestres et aériennes contre les positions du groupe armé nigérian. Camille Gros-Didier.
Dans un communiqué diffusé par la radio d'État mercredi soir, le ministère nigérien de la Défense indique que 15 miliciens sont morts et qu'une vingtaine d'autres ont été faits prisonniers. Un véhicule blindé a été détruit, 26 motos saisies, ainsi que des vivres et du carburant. Le porte-parole du ministère de la Défense, le colonel Mustapha Ledru, qui a lu le communiqué, n'a pas précisé le site de l'opération, mais Boko Haram reste actif dans le sud-est du Niger, près du lac Tchad et les frontières avec le Nigeria et le Tchad. On ignore également si l'armée tchadienne a participé à ces opérations régionales pour éradiquer Boko Haram. Le 18 juin, Boko Haram a mené une attaque sanglante contre 2 villages du sud-est nigérien, frontaliers avec le Nigeria. 38 civils, dont 14 hommes, 14 femmes et 10 enfants, ont été massacrés. Les États-Unis ont condamné l'attaque et ont rappelé leur engagement à œuvrer avec les gouvernements de la région pour éradiquer la menace posée par Boko Haram.
Un citoyen argentin a été enlevé dans l'état de Niger, dans le centre nord du Nigeria, par des hommes armés, a déclaré jeudi la police. Les enlèvements crapuleux d'étrangers sont nombreux dans le sud du Nigeria, où se concentre la production pétrolière. Les otages sont presque toujours relâchés contre le paiement d'une importante rançon. Peu de cas ont cependant été rapportés dans la région de l'état de Niger, où les étrangers sont peu nombreux.
Le président Barack Obama recevra le 20 juillet Muhammadu Buhari. Il compte discuter avec son homologue nigérian de plusieurs dossiers, y compris la coopération entre les États-Unis et le Nigeria pour une approche régionale et globale du combat contre Boko Haram, a précisé la Maison-Blanche aujourd'hui dans un communiqué.
La justice britannique a accordé une liberté sous caution au chef des services secrets rwandais Emmanuel Karenzi Karake, arrêté samedi à Londres à la demande de l'Espagne. Il sera libéré contre le versement d'un million de livres, soit environ 1,4 million d'euros. Le général Karake a refusé d'être remis à l'Espagne lors d'une comparution aujourd'hui à Londres. Les précisions de Lionel Gahima.
Le général Karake, 54 ans, est accusé par l'Espagne de crimes de terrorisme. Son arrestation à l'aéroport de Heathrow était en exécution d'un mandat d'arrêt lancé par Madrid. À la question du juge qui lui a demandé s'il consentait à être remis à l'Espagne, le général a répondu « Je n'y consens pas ». Le juge a alors fixé l'audience d'extradition au 29 et 30 octobre. L'accusation de crime de terrorisme retenue contre le très influent Karake est un lien avec la mort de 9 Espagnols qui auraient été tués notamment pour avoir aidé des réfugiés Hutus. À son entrée dans la salle, le général avait levé ses poings serrés au-dessus de sa tête, suscitant de cris d'encouragement depuis la galerie où siège le public. Et à l'extérieur du tribunal, un petit groupe de manifestants qui réclamaient la libération de leur héros brandissait des banderoles « Arrêtez d'humilier l'Afrique ». À Kigali, le président Paul Kagame a condamné l'arrogance et le mépris de l'Occident après cette arrestation. Ils doivent l'avoir pris par erreur pour un immigrant illégal. Ils nous traitent tous comme ils traitent les immigrants illégaux, a-t-il déclaré dans un discours devant le Parlement. Les Rwandais qualifient l'arrestation du général Karake d'acte injuste et politique.
Le gouvernement sud-africain va réfléchir à son adhésion au statut de Rome de la Cour pénale internationale, a annoncé Pretoria. On fait le point avec Michel Joseph.
Cette décision fait suite au récent conflit qui a opposé Pretoria à la Cour pénale internationale qui réclamait l'arrestation du président soudanais Omar al-Béchir, a annoncé jeudi la présidence sud-africaine. Al-Béchir, qui était visé par un mandat d'arrêt international, a quitté l'Afrique du Sud la semaine dernière alors que la justice sud-africaine l'avait sommé de rester sur le territoire. Comme l'Afrique du Sud est signataire des accords fondateurs de la CPI, elle est tenue d'appliquer ses mandats d'arrêt. Mais tout comme l'Union africaine, le Congrès national africain, l'ANC, au pouvoir en Afrique du Sud, accuse le tribunal de La Haye de s'acharner de façon sélective contre certains pays d'Afrique. Aux yeux de Pretoria, la CPI a perdu sa crédibilité en refusant de poursuivre ses dirigeants occidentaux qui ont pourtant commis des crimes graves au cours de ces dernières années.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les étrangers venus combattre dans la Corne de l'Afrique aux côtés des islamistes Shebab somaliens poseront à terme un problème à l'Europe s'ils échappent aux forces de sécurité, a averti aujourd'hui le vice-président kényan William Ruto à l'occasion d'une conférence internationale sur la lutte contre l'extrémisme.
Au Maroc, deux jeunes femmes interpellées sur un marché alors qu'elles se promenaient en robe seront jugées à partir du 6 juillet à Agadir pour outrage à la pudeur, suscitant une vague d'indignation dans les pays, ont rapporté jeudi une ONG et des médias locaux. La police serait intervenue après qu'elles eurent été encerclées par des marchands ambulants qui protestaient contre leur tenue jugée contraire aux bonnes mœurs. Malmenées, elles n'ont dû leur salut qu'aux forces de l'ordre, rapporte le site Média 24.
Les négociations sur le nucléaire iranien risquent de ne pas aboutir à un accord à la date butoir du 30 juin. C'est ce qu'a déclaré un haut responsable du département d'État, précisant qu'une entente pourrait intervenir toutefois peu de temps après. Le secrétaire d'État John Kerry retourne à Vienne demain vendredi pour la phase finale des discussions. L'objectif pour l'Iran, c'est la levée des sanctions internationales, alors que les puissances mondiales veulent des garanties solides concernant le caractère civil et pacifique du programme nucléaire iranien.
Et ici aux États-Unis, la Cour suprême a infligé aujourd'hui une défaite cuisante aux adversaires politiques de l'Obamacare, le programme d'assurance maladie du président Obama que certains détracteurs qualifient de socialisme. Elle a rejeté par 6-3 un recours sur la constitutionnalité des subventions du gouvernement fédéral aux États de l'Union pour aider les gens à souscrire des polices d'assurance. C'est par un tonnerre d'applaudissements que la foule réunie devant le siège de la Cour suprême a accueilli sa décision. Et le président Obama s'en est bien entendu félicité.
After multiple challenges to this law before the Supreme Court, the Affordable Care Act is here to stay.
Le président Barack Obama a déclaré plus loin que cette loi fonctionne, elle va continuer à fonctionner, rien ne va changer. Il a appelé ses adversaires républicains à cesser leurs attaques contre Obamacare pour des raisons politiques. Dans le nord de la Syrie, les combattants islamistes ont lancé une double offensive ce jeudi contre la ville stratégique de Kobané, limitrophe de la Turquie, et Asaka, une ville habitée en majorité par les Kurdes, où le gouvernement contrôle plusieurs secteurs. Ces attaques font suite au revers subi récemment par le groupe État islamique face aux Peshmerga, c'est-à-dire face aux combattants kurdes. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Coup d'œil sur l'actualité économique en Afrique et ailleurs, la Minute Éco, ce soir avec Bagassi Koura.
La Banque mondiale a annoncé avoir débloqué 100 millions de dollars pour réduire les coûts de transport entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Les deux pays voisins d'Afrique de l'Ouest ont des économies imbriquées. Selon l'AFP, citant un communiqué de la banque, chacun des deux pays recevra 50 millions de dollars afin d'engager une série de réformes dans le transport routier, les ports et les points d'entrée terrestres. La Côte d'Ivoire a pris le contrôle de 3 opérateurs de téléphonie. Il s'agit de Mobile Green, Comium et Café Mobile, arguant que ces derniers devaient à l'État des taxes et des droits de licence. Selon Reuters, le pays envisage de les fusionner en une seule compagnie avant de chercher un partenaire pour prendre une participation majoritaire. C'est demain que les autorités comptent chasser les vendeurs ambulants des rues de la capitale zimbabwéenne, Harare. Le pays compte plus de 5 millions de vendeurs ambulants et la majeure partie se trouve dans la capitale Harare. Hier, mercredi, ils ont organisé des marches de protestation contre leur éviction. On écoute la députée de l'opposition, Tabitha Kumalo, qui était parmi les manifestants.
Ce que nous voyons au Zimbabwe ici, c'est que le gouvernement du ZANU-PF a promis 2,2 millions de boulots et il n'y a rien. Qui amène ces 2,2 millions d'emplois?
Les taxis français en guerre contre la concurrence sauvage du groupe américain Uber ont manifesté par milliers leur colère dans un climat explosif ce jeudi.
Merci Bagassi pour cette minute écho.
Et nous passons tout de suite à la page sport avec Nicolas Pinault. Salut Nicolas.
Oui, bonsoir chérubin.
Copa América, soirée catastrophique on peut dire pour l'Uruguay.
La Céleste tenante du titre est privée de son buteur vedette. Luis Suarez a été battu par le pays organisateur hier. Le Chili à Santiago La Roja s'est imposé 1-0 grâce à un but inscrit à la 81e minute de jeu par Mauricio Isla, qui a ainsi concrétisé la nette domination de son équipe durant toute la rencontre. A noter que les Uruguayens ont fini la rencontre à 9 après 2 expulsions. Le Chili se qualifie donc pour les demi-finales. À suivre le prochain quart de finale explosif, le choc entre l'Argentine et la Colombie, ce sera dans la nuit de vendredi à samedi, avec Lionel Messi d'un côté et James Rodriguez de l'autre.
On parle transfert, Nicolas ?
Andrea Pirlo de la Juventus de Turin devrait s'engager en août avec le New York City FC en Ligue nord-américaine de football. Pirlo, selon le quotidien La Gazzetta dello Sport, se voit offrir un contrat de 18 mois avec la possibilité d'une option pour une année supplémentaire. Champion du monde 2006, vainqueur de la Ligue des champions en 2003-2007 avec le Milan AC, Andrea Pirlo a remporté le doublé championnat Coupe d'Italie avec la Juventus cette saison. Et puis un nouveau défi pour Mohamed Sissoko. À la peine depuis son départ du Paris Saint-Germain il y a 2 ans, le milieu de terrain malien a décidé de quitter Levante et a signé en Chine au Shanghai Shenhua. La durée de son contrat n'a pas été dévoilée.
Usain Bolt déclare forfait pour les championnats de la Jamaïque qui débutent aujourd'hui à Kingston.
La star du sprint mondial a finalement décidé de ne pas participer à cette compétition, mais aucune raison n'a été donnée pour expliquer son forfait. Le sextuple champion olympique et octuple champion du monde n'est pas encore passé cette année sous la barre des 10 secondes sur 100 mètres et des 20 secondes sur 200 mètres.
Et pour terminer, la NBA, la saison s'est achevée par la victoire de Golden State et ce soir, le grand rituel de la draft.
Le nouveau LeBron James s'appelle-t-il Karl Anthony Towns ou Jalil Okafor est-il le futur Shaquille O'Neal? En tout cas, les équipes NBA vont recruter ce soir les meilleurs espoirs américains et étrangers lors de la draft 2015 dans l'espoir de décrocher le gros lot. Appelé par le commissionneur Adam Silver, le grand patron de la NBA, 60 joueurs âgés de 19 à 23 ans vont coiffer la casquette de leur nouvelle équipe et espérait ainsi faire carrière dans le championnat le plus relevé au monde. Après une seule saison dans le championnat universitaire, Karl Anthony Towns et Jalil Okafor sont les deux attractions de cette draft 2015.
Voilà pour les sports. Merci Nicolas Pineau.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, dans cette édition, chez Robin Dorsil et Idrissa Sedoudia, place au dossier du jour, en commençant par la République démocratique du Congo.
Oui, des voix s'élèvent pour dénoncer ce qu'elles appellent un règlement de compte politique en amont des élections. Moïse Katumbi, le gouverneur du Katanga, pourrait bien se présenter à cette présidentielle. Il avait dénoncé l'intention du président Joseph Kabila de briguer un troisième mandat. Il aurait été cité, selon l'AFP, avec trois autres gouverneurs dans la plainte transmise au parquet général de la République par le président Joseph Kabila pour corruption, fraude et détournement. Eddy Sango a joint à Kinshasa un député de l'opposition, Jean-Claude Mouemba.
Monsieur Kabila, comment ne peut-il pas, lui, relever ces gens-là de leurs fonctions, puisqu'ils dépendent de lui? Et puis, quelle est les premières mesures disciplinaires et administratives que Monsieur Kabila a pu avoir? On nous dit qu'il y a plus de 10 noms, plus de 15 noms. Mais c'est que nous ne voulons pas que ce soit un règlement de compte par rapport à la fin des mandats, à la fin du pouvoir de Monsieur Kabila.
Ceux qui ont vu les dossiers, notamment l'AFP, par le site le gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, et trois autres gouverneurs. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait qu'ils soient visés pourrait être justement un règlement de compte?
Si c'est bien cela, vous comprenez vous-même que ça sent le règlement de compte dans cette grande écurie kabyliste. Mais le peuple attendra pour voir que des centaines de noms puissent y passer. Parce que nous sommes le 184e pays désigné pour la corruption. Alors, il y a de quoi se poser des questions. Parmi les gouverneurs, il n'y a pas seulement ceux qu'ils ont cités. Hein. Il y a aussi d'autres qu'on connaît trop bien.
Mais comment avez-vous jugé, au niveau de l'Assemblée nationale, le fait qu'au lendemain, c'était quelques jours ou quelques semaines après que M. Moïse Katumbi ait dénoncé les velléités d'un troisième mandat du président de la République, qu'une descente du gouvernement soit effectuée dans la province du Katanga et que là, on saisisse certaines autorités douanières et qu'on en suspende et que justement, ça aboutisse à cette accusation contre M. Moïse Katumbi?
M. Moïse Katumbi est comme tout Congolais. Il a le droit de dire ce qu'il pense. Il a le droit de demander qu'on respecte la Constitution. Monsieur Katumbi a toujours été parmi les meilleurs gouverneurs de province, hein, plébiscité par le gouvernement congolais, y compris par Monsieur Kabila lui-même. Et de toute façon, Monsieur Moïse Katumbi n'a pas sa langue dans sa bouche. Il dira beaucoup ce qu'il sait. C'est à ce moment-là que nous allons voir comment la justice ira. Bon, avec des noms que nous attendons, Alexis Kandé, Ngoïka Sandji, ce qui est un peu curieux, Marcelin Chissambo, qui était un grand pilier de la dynastie kabyliste et kabylienne. Bon, paraît-il aussi qu'il y a trois mandataires. Bon, nous attendons le nom des mandataires. Mais ces mandataires-là ne sont que des caisses de pourvoyeurs de PPRD et de la majorité présidentielle.
Le député congolais Jean-Claude Mouemba, joint à Kinshasa.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Cap maintenant sur le Bénin, où les électeurs retournent aux urnes dimanche pour élire leurs représentants dans les conseils communaux, municipaux et locaux. Plusieurs partis et alliances se promettent la grosse prime, à savoir Cotonou. Mais l'enjeu de ces joutes ne se limite pas à la capitale. Écoutons le reportage de notre correspondant Peggy Ludovic Dagba.
La bataille pour les municipales, communales et locales béninoises égrène à ses dernières heures. Et les différents partis politiques et alliances de partis politiques en compétition dans chacune des 77 communes que compte le Bénin usent d'arguments pour convaincre les électeurs à leur accorder dimanche prochain leur suffrage. Le truculent candidat Zanaï conduit la liste Union fait la Nation à Cotonou.
Le programme 3CI a montré ses limites. Il faut proposer autre chose. Et nous avons proposé à Cotonou d'aller au CP. Cotonou propre. Pour guérir un mal, il faut aller à sa cause. Les eaux à Cotonou proviennent de trois sources. Il y a la première source qui est liée à la texture géomorphologique du sol et à sa proximité avec l'océan, sa contiguïté avec l'océan. Et cette source, la cause, c'est la nappe phréatique qui affleure de sol. Il y a une manière pour régler ça. La deuxième source d'eau, c'est l'eau qui vient d'en haut, généralement, pour parler en français basique, c'est l'eau de pluie. Et nous savons tous que si la nappe phréatique est à fleur de peau et que l'eau de pluie venait à tomber là-dessus, il risque d'avoir stagnation. Nous savons parfaitement comment il faut régler cette question. Pour la question de la nappe phréatique à fleur de sol, la solution est le relèvement du niveau du sol. C'est une solution lourde. Mais pour l'eau qui tombe d'en haut, la solution c'est le drainage.
Adimi Tidjani, lui, est candidat FCBE dans le premier arrondissement de Cotonou. Pour lui, les jeunes doivent intégrer les instances de prise de décision.
Je me suis dit, le jeune doit tout faire pour être dans les instances décisionnelles de notre pays. Parce qu'on remarque que plus de la moitié de la population est essentiellement constituée d'une classe juvénile. Et vous connaissez les problèmes qui minent la jeunesse aujourd'hui. Et il faudrait que la jeunesse soit à la place où il doit décider de son sort. Sinon, s'il n'est pas là, c'est les autres qui vont décider à sa place.
Et rien ne lui fait peur. Adimi Tidjani.
Moi, je n'ai pas attendu les élections pour commencer par quand même mener un certain nombre d'actions. J'étais sur le terrain il y a très longtemps. J'avais organisé des jeunes pour la campagne de salubrité. J'avais organisé des jeunes pour quand même trouver un certain nombre d'équipements sportifs pour leur permettre quand même de se réjouir, de s'épanouir pendant les congés et tout ça là. J'organisais des cours de vacances pour les élèves étudiants qui ont fini peut-être, qui passent en classe supérieure, qui pour la prochaine rentrée, tout ça là. Et pour les élèves en classe de terminale, j'organise les cours de recyclage, de renforcement, de capacité pour leur permettre d'affronter les examens. Ouais. Donc moi, j'étais sur le terrain il y a tel temps. Ce qui fait que je n'ai pas eu de difficultés.
Ainsi, la bataille se promet d'être rude dimanche prochain à Cotonou et dans les autres communes du Bénin. Peggy Ludovic Dagba, Cotonou, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Golf FM, Cotonou, 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
Au Sénégal, la société civile se mobilise contre les pénuries d'eau et les fréquents délestages. Plusieurs groupes ont tenu en début de semaine une conférence de presse au siège de l'association Yanamar à Dakar pour faire le point et surtout planifier des actions en vue d'interpeller les autorités sur cette situation. Timothée Donangmaï a joint à Dakar Simon Koka de l'association Yanamar.
Vu qu'on est en période de Ramadan actuellement, on a décidé de donner rendez-vous aux citoyens sénégalais, aux jeunes sénégalais, au peuple en général, le lendemain de la Corité, pour pouvoir faire une grande manifestation, une marche, un sitting, pour justement dénoncer ces coupures d'eau et d'électricité.
Alors selon vous, qu'est-ce qui est à l'origine de tous ces problèmes?
Bon, pour l'électricité, on nous dit que c'est des pannes liées aux câbles qui n'ont pas été nettoyés, que c'est la poussière, etc. C'est vraiment des excuses, des fois que les Sénégalais ne peuvent pas comprendre. C'est vraiment des détails. On nous dit des détails de nettoyage par-ci, par-là, des petites pannes par là-bas. Bon, à un certain moment, il y a eu des pannes. Ça, on l'a constaté. Il fallait attendre, surtout pour l'eau, qu'on change. Donc ça, il n'y avait pas lieu de faire une manifestation. Mais aujourd'hui, personne, ni le directeur de la Sénélec, ni qui que ce soit, n'est en principe de dire aux Sénégalais, voilà le problème. Donc à un certain moment, d'ailleurs là, le directeur de la Sénélec a été limogé avant-hier. Donc je crois que c'est à cause de ces coupures. Et le président a trouvé nécessaire de le limoger. Il a changé le ministère de l'Énergie. Il l'a amené dans un autre poste pour mettre son directeur de cabinet. La question, c'est pas de changer les hommes. Depuis des années, on change pas mal de directeurs. Et le problème, il persiste. Dès qu'on est à l'été, les coupures reprennent. Les Sénégalais n'ont plus le droit vraiment de ça, ne méritent pas vraiment qu'on leur rappelle à chaque fois à cette période de l'année des coupures. Donc à un certain moment, des matériels qui se gâtent, on a dit stop quoi. Il est vraiment temps. Et pendant ce temps-là, les politiques ne font que partir en campagne pour une élection qui va débuter que dans 2 ans.
Comment cette pénurie d'eau et ces délestages affectent-ils la vie quotidienne au Sénégal?
Ben, vous le savez, dès que vous allez quelque part, ce que vous remarquez en premier chez les gens, c'est des bidons. C'est des bidons de 10 litres d'eau qui se vendent à la boutique. Donc en quoi ça affecte? C'est-à-dire le matin, on se lève pour aller travailler ou pour aller à l'école. On n'a pas la possibilité de prendre une douche. C'est comme ça que ça affecte. Voilà, l'électricité, c'est-à-dire on va au marché, on amène des denrées, on les met au frigo et elles pourrissent. elles pourrissent. Les vendeurs de poulets de chair qui stockent leurs marchandises dans des congélateurs, qui restent toute une nuit sans électricité, le lendemain ont d'énormes pertes. Donc voilà, ça affecte l'économie, ça affecte les Sénégalais dans leur vie quotidienne.
Simon Koka, de l'association Yanamar, nous parlait de Dakar.
Vous êtes toujours sur Le Monde aujourd'hui. Parlons maintenant de Jurassic World. Vous l'avez peut-être vu, numéro 1 du box-office depuis sa sortie. Le film met en scène l'ouverture d'un gigantesque parc d'attractions centré sur le clonage de dinosaures vivant à partir de leur ADN fossilisé. Le paléontologue Jack Horner, consultant du film, affirme que la fiction pourrait devenir réalité. Mais à quel point est-ce possible, Salwa Jafari? Ce sont les aléas du direct. Nous éprouvons quelques difficultés techniques. Idrissa Seloudia et bien sûr la régie fait de son mieux pour essayer de retrouver ce reportage de Salwa Jafari. Peut-on l'écouter maintenant? Non. La réponse est apparemment non. Alors, juste avant, nous allons vous rappeler que des étrangers venus combattre dans la Corne de l'Afrique aux côtés des islamistes d'Al-Shabaab somaliens poseront à terme un problème à l'Europe s'ils échappent aux forces de sécurité, selon ce qu'a averti aujourd'hui le vice-président kényan William Ruto. C'était à l'occasion d'une conférence internationale sur la lutte contre l'extrémisme. Quelques 300 experts en sécurité et membres de la société civile en provenance d'une trentaine de pays. Et les autorités kényanes avaient annoncé le 15 juin la présence d'un djihadiste britannique parmi des militants Shabab tués lors d'une attaque contre une base militaire kényane. Et si l'on parlait maintenant de Jurassic World avec Salwa Jafari?
Une sortie fulgurante à l'image de ces créatures mystérieuses, 20 ans après le succès de Jurassic Park, Jurassic World n'a pas d'issue. Avec plus d'1 milliard de dollars de recettes, le blockbuster piétine le box-office mondial. Le film met en scène un parc d'attractions de dinosaures clonés à partir d'ADN fossilisé dans de l'ambre. À quel point ce concept scientifique est-il proche de la réalité? Et puis d'abord, de l'ADN de dinosaures, est-ce facile à trouver? Nous avons posé la question au paléontologue Nourdine Jalil.
Et actuellement, les chimistes estiment à environ une dizaine de milliers d'années la durée de temps au bout de laquelle la dernière molécule d'ADN disparaît. Et si on ajoute à cette attaque chimique, à sa dégradation chimique, la putréfaction ou l'attaque par les micro-organismes, par des bactéries par exemple, donc on peut très facilement imaginer qu'il est très difficile qu'on ait des ADN qui remontent à des époques aussi lointaines que celles des dinosaures.
Depuis le début de la saga Jurassic Park, le paléontologue Jack Horner est le consultant scientifique des films. Selon lui, on peut prendre tout un tas de gènes d'autres animaux et les mélanger. Son ambition est de créer un chickenosaurus, un dino-poulet.
Les oiseaux sont les descendants des dinosaures. Ce sont en fait des dinosaures. Ce sont les dinosaures n'ont pas complètement disparu. Mais nous, on parle là de dinosaures, des dinosaures classiques, les dinosaures non aviens, les dinosaures qui ne volaient pas. Et ces dinosaures-là, leur reste, ils datent d'au moins 65 millions d'années. À mon avis, ça relève plus de la science-fiction que de la science tout court, parce que les dinosaures, ils ont disparu il y a 65 millions d'années. Et on ne peut pas reconstituer à partir d'un résultat actuel le cheminement dans le passé. On ne peut pas remonter dans le temps et reconstituer des brins d'ADN de dinosaures. L'évolution se fait au hasard. Il ne suit pas un cheminement logique. Donc l'ADN actuel, c'est le fruit d'une évolution qui s'est faite au hasard. Et à ma connaissance, il n'y a aucun procédé qui permette de remonter dans le temps.
En attendant, il faudra se contenter des dinosaures de Steven Spielberg en 3D. C'est à presque oublier qu'il n'existe pas.
Cette édition touche à sa fin. La mise en onde a été assurée par Michel Joseph, assisté de Jackson Witt. À la console, présentation Chérubin Dorsil et Idrissa Seloudia.